On a tous les yeux rivés sur le nouveau conflit entre Israël et l'Iran. Au passage, on n'oublie pas non plus ce qui se passe à Gaza, les crimes de guerre qui se poursuivent sans discontinuer. Mais cette guerre Israël-Iran nous intéresse parce qu'elle se joue sur un terrain physique. Certes, les tirs de missiles et de drones, les bombardements américains sur les installations nucléaires iraniennes. Mais comme toutes les guerres actuelles, ce conflit est un conflit hybride qui se joue aussi sur le terrain cyber. Des groupes de hackers s'activent des deux côtés pour perturber les infrastructures militaires, énergétiques, économiques et de désinformation. Et pour désinformer la population. Et pour en parler, on accueille notre invité suivant, Amin Baba Aïssa. Salut Amin, merci d'être avec nous. Tu es journaliste à Numérama, spécialiste de la cyberguerre.
C'est ça.
Ça fait plaisir de t'accueillir sur ce plateau. On va parler avec toi d'un gros morceau ce soir. Quel genre de cyberattaques ont lieu pendant la guerre entre Iran et Israël là ? Est-ce qu'on a déjà identifié des cyberattaques ?
Alors, la guerre entre l'Iran et Israël a commencé, enfin, les premiers bombardements ont eu lieu le 13 juin, mais la cyberguerre, elle a commencé depuis des décennies, je dirais.
Okay. Ah, elle s'est jamais arrêtée.
Arrêtée. En fait, c'est les deux ennemis principaux dans le cyberespace. C'est vraiment l'Iran contre Israël, Israël contre l'Iran. C'est des attaques constantes, c'est des choses qu'on essaye de reporter au quotidien. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, maintenant qu'on est en temps de conflit, il y a ces portes dormantes, comme on appelle, ces accès dormants qui sont activés. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une cyberattaque, il faut infiltrer des infrastructures à travers des employés. On voyait parfois, ça peut commencer par un email de phishing tout simple. Et en fait, ça termine par une réelle cyberattaque en temps de conflit. Et
C'est-à-dire que c'est comme dans le monde physique, quand ils ont déployé les drones le jour du début de leur attaque. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord allés sur le terrain. Il y a sans doute des espions. D'ailleurs, il y a des gens qui ont été arrêtés après par le régime iranien. Et c'est exactement pareil sur la guerre informatique. La guerre, c'est aussi juste aller s'installer discrètement, placer des backdoors.
C'est ça, c'est placer des pions pendant des mois, des années.
Là, tout a explosé ces derniers jours.
Alors, ces derniers jours, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est... Il y a un groupe de cybercriminels qui s'appelle Ganjeshte Darande. Je suis vraiment désolé pour les Iraniens si je prononce très mal le nom. Mais en gros, c'est des moineaux prédateurs. On a du mal à identifier clairement d'où ils viennent. Est-ce que ce sont des cybercriminels israéliens ? Est-ce que ce sont des dissidents au régime iranien ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils servent les intérêts d'Israël. Et ils ont mené déjà deux attaques depuis le début du conflit. Donc la première attaque, ça a été contre la banque SEPA. C'est une banque d'État iranienne donc, qui a été attaquée et qui, en fait, l'attaque, ils ont pris les données, ils les ont complètement détruites. Et du coup, ça a été un réel problème, en tout cas, des témoignages qu'on a en Iran, des agences complètement fermées, même des stations-service qui sont fermées parce que, bien sûr, ça crée un effet domino. Et elles sont dépendantes de ces banques et du coup ça crée vraiment un impact réel sur la vie des Iraniens. Et la deuxième attaque qui a eu lieu cette semaine, qui a été avérée, qui a été revendiquée d'ailleurs par Ganjeshte Darande, qui n'a pas peur d'assumer ces attaques au grand public sur Twitter, etc. Cette attaque, elle a visé une entreprise de crypto-monnaie iranienne qui s'appelle Nobitex. Et là, on peut parler de 90 millions apparemment de dollars qui se seraient évaporés, qui ont été envoyés vers des comptes complètement scellés. Ouais. Et le fait que ça a été envoyé par des banques complètement scellées, ça donne un indice aussi sur le type d'attaque qu'on voit, parce que ce n'est pas du tout à but financier. C'est-à-dire que cet argent a été complètement bloqué. Ça a été vraiment un but de,
pour nuire.
De déstabiliser le pays. Et donc, pour l'instant, c'est les deux attaques qu'on a vues depuis le début du conflit.
Alors, arrête-moi si je dis une connerie, mais le régime iranien a décidé de couper l'accès à Internet dans quasiment tout le pays. Est-ce que c'est la preuve que les attaques israéliennes sont puissantes ?
Alors, en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est la paranoïa du régime iranien, mais qui est parfois justifiée et légitime. Il faut pas oublier que Israël a vraiment... réussi entre guillemets de gros coups de cyberattaque dans les dernières années. Il y a la première qui nous vient en tête, c'est celle du beeper contre les dirigeants du Hezbollah, exactement au Liban. C'est vraiment quelque chose qui a créé une paranoïa au sein du régime iranien. On pense aussi au leader politique du Hamas qui a été tué et son fils qui disait « Je suis persuadé qu'il a été tué par un missile qu'il a suivi à travers son téléphone ». C'est-à-dire que c'est pour vous dire. D'autres sources disent que c'est une bombe qui a été activée à distance chez lui, mais la paranoïa, elle est complète. Donc, dans tout cet écosystème, que ce soit le Hezbollah, le régime iranien ou le Hamas.
Donc c'est pour ça qu'ils ont coupé. On suppose que c'est pour ça qu'ils ont coupé Internet.
Ouais. Alors on suppose que c'est pour ça qu'ils ont coupé Internet, mais ça peut aussi jouer sur deux facteurs. Donc il y a la cybersécurité, on coupe tout pour être sûr de ne pas subir une attaque, mais il y a aussi le fait de couper la population iranienne. Et en fait, c'est la population iranienne qui est constamment perdante, puisque c'est la population iranienne qui se retrouve coupée d'Internet. L'Iran a construit un intranet, entre guillemets, qui s'appelle le National Network. Alors que je ne dise pas de bêtises, c'est le National Network, exactement. C'est le NIN, je ne sais plus exactement c'est quoi l'acronyme de NIN, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de créer un intranet. Mais du coup, en créant un intranet, on filtre, on sait exactement...
Et genre sur le modèle nord-coréen, un espèce de truc fermé où il n'y a que...
Alors, un modèle fermé, ouais, un internet iranien, quelque chose de complètement fractionné, du reste du monde en tout cas.
C'est dingue. Usule.
Qu'est-ce qu'on sait ? Il y a un truc qu'on sait, c'est qu'Israël a même une industrie de très en pointe sur le cyber qui va jusqu'à exporter ses logiciels et les vendre à d'autres pays souverains qui vont les utiliser un peu comme ils veulent, au point qu'on en est, le logiciel Pegasus notamment, on se souvient, au point qu'on en est à se demander si ça, en fait, ce ne sont pas des armes, est-ce que ce n'est pas du commerce d'armes ? Qu'est-ce qu'on sait de l'implication de ces entreprises qui sont des entreprises qui ont pignon sur rue, parce que là on parlait de groupes de hackers, c'est toute cette zone grise où ça agit pour les intérêts d'un pays, mais en même temps le pays ne peut pas assumer ces attaques-là parce qu'elles sont illégales. Mais quel est le rôle de ces entreprises-là qui sont en pointe dans ces domaines-là, dans ces attaques-là ?
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Pegasus, c'est vraiment le fer de lance et l'exemple parfait de la cyber-offensivité d'Israël. C'est-à-dire qu'on parle d'un logiciel espion, on parle d'un logiciel espion qui peut être activé à distance sans aucune interaction de la victime, c'est-à-dire que c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose qui a été vendu à des États, à plus de 40 États. C'est quelque chose qui a pesé dans la balance parfois dans les négociations pour normaliser les relations avec Israël, avec certains pays. C'est vraiment un outil qui a été utilisé comme vraiment avec un poids diplomatique de la part d'Israël. Ce qu'il faut voir aussi en plus, c'est que Pegasus est développé par un groupe qui s'appelle le NSO Group, qui a été fondé par des anciens du ministère de la Défense israélien. Donc c'est-à-dire que tout est lié et que en plus, quand vous parlez de régulation, il faut savoir que Pegasus n'est pas vendu à n'importe qui. Il faut l'aval du ministère de la Défense israélienne avant de pouvoir acquérir Pegasus pour un
État. C'est légal ça, Pegasus ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une réglementation internationale qui viendrait dire, je suis désolé, ça c'est comme l'arme nucléaire ou je sais pas quoi, ça circule pas ou alors c'est régulé ?
Alors, en fait, ça se joue sur...
ça pue sur un petit flou, en fait.
Pegasus, c'est censé pouvoir infiltrer et espionner des organisations terroristes.
Ouais.
Voilà. Le mot est dit. Sauf qu'aujourd'hui, c'est avéré que Pegasus a servi d'outil d'espionnage pour espionner des journalistes, mais aussi des chefs d'État.
Des ministres.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron était dans une liste de 14 chefs d'État.
Espionnés.
On ne sait pas s'il a été espionné, mais en tout cas, c'était dans la liste des cibles intéressantes pour Pegasus.
Tu étais au Salon du Bourget.
Ouais.
J'y étais aussi. Est-ce que les armes ou les systèmes de défense cyber prennent une place de plus en plus importante dans ces salons de l'armement, notamment ?
Je pense que, comme moi, vous avez dû voir.
J'en ai vu plein, oui.
Que ce soit les grands industriels ou que ce soit des boîtes de cybersécurité, maintenant, c'est présent partout. Et puis même la manière dont c'est mis en avant, par exemple, je pense au stand Dassault Aviation qui met vraiment en avant ce qu'ils appellent le SCAF, c'est-à-dire le système de combat
aérien
du futur, où en gros c'est un système dans le système, c'est-à-dire que c'est un cloud complet européen qui est pensé pour envisager des attaques envers notre souveraineté numérique, et c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant. Il y a des entreprises de cybersécurité qui font pignon sur rue dans le Salon du Bourget. On sent que c'est vraiment quelque chose qui est pris très au sérieux dans le monde de l'armée.
Julie ?
Justement, dans ça, il y a aussi le rôle, encore une fois, de l'IA. On parle beaucoup, là, notamment de l'IA Slop, de toutes ces images, alors soit pour de la propagande, pour de la désinformation. Et j'imagine que ça fait aussi partie de ce plan-là.
Alors, sur ce plan-là, c'est vraiment l'IA, c'est comment on utilise l'IA générative dans la cyberguerre. Et ça, c'est tout un autre pan qui est à explorer, parce que là, on parle de campagne d'influence, on parle de déstabilisation plus psychologique et plus interne à un pays. Et quand vous faisiez référence à IASLOP, en fait, IASLOP, c'est le fait d'inonder les réseaux sociaux et le tout Internet par du contenu
bas de gamme,
très bas de gamme, de mauvaise qualité, ouais. Exactement.
Fait par mots, l'IA.
Voilà, fait par l'IA. Alors, qu'on tombe dans le panneau ou non, le souci, c'est que ça occupe du temps d'écran et que ça occupe de l'attention et que ça met de côté du contenu de qualité. Et c'est vraiment ça qui est utilisé par les États et parfois juste par des groupes de pensée, on en parlera peut-être plus tard, mais par des groupes de pensée pour inonder la toile et déstabiliser et mettre des idées dans la tête.
Justement, ouais, c'est ce que j'allais demander. Tu parlais notamment d'idées, de choses qu'on met dans la tête. Est-ce que tu penses aussi que la cyberguerre, ça peut être aussi par des outils de soft power, notamment à travers certaines figures culturelles? Je pense notamment au cyberharcèlement massif qu'a vécu Iman Khelif, la boxeuse algérienne l'été dernier, qui était au final un espèce de mix entre de l'attaque conservatrice côté, on va dire, états-unien et britannique, conservatrice, transphobe, etc. Et en même temps du côté russe aussi. Est-ce que ça fait partie, selon toi, de formes de cyberguerre là-dessus?
C'est une forme de cyberguerre. La seule différence, c'est que on parle plus forcément en visant un État. On parle plus d'un mode de pensée, d'une certaine philosophie, le conservatisme, le retour au traditionnalisme. Et quand on prend l'exemple, par exemple, d'Iman Khelif, qui donc a été la boxeuse algérienne qui a été attaquée de partout, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi une dynamique des réseaux sociaux. Et que la cyberguerre, elle joue là-dessus, et que, par exemple, une attaque discriminatoire genrée va engranger 6 fois plus d'engagement qu'une attaque lambda lancée contre n'importe qui. Si on commence à s'attaquer sur du physique, du genre, là, les réseaux sociaux, l'algorithme va glorifier un peu ce genre de pensée et c'est prouvé statistiquement que ces campagnes marchent beaucoup mieux.
C'est pour ça qu'il y a une attaque plus précise sur tout ce qui est les femmes des dirigeants politiques. Je pense à des deepfakes de la femme de Zelensky, par exemple, pendant la guerre en Ukraine. Ouais. Toutes les rumeurs de transidentité autour de Brigitte Macron. Enfin, c'est viser les femmes, journalistes, politiques.
Il y avait déjà eu Michelle Obama à l'époque. Hein.
Bien sûr.
Et en fait, le souci, c'est que ça marche, c'est que ça rentre dans une dynamique de buzz, ça rentre dans une dynamique... un mode de pensée qui est en train de remonter, qui est un peu nauséabond, et c'est exactement ça qui fait que ça fait partie de la cyberguerre, en fait.
Alors, quand tu parlais de groupe de pensée, tu pensais à quoi? Moi, alors, sur le truc de l'IA qui permet de générer, justement, de polluer de la merde, l'IA, je l'avais vu, j'avais vu que des groupes russes mettaient ça aussi au service pour créer des faux sites, carrément, des sites qui recopient l'esthétique, la charte de sites qu'on connaît bien, Le Monde, Libération, je sais pas quoi. Et d'ailleurs, on les voit sur X maintenant. Sur X, et ça arrive en sponsor, un truc avec un faux site de presse et encore un truc de Macron, Brigitte Macron, est-ce que en vrai ce serait pas un singe? Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et maintenant, ça a envoyé X qui régule pas, évidemment. Mais tu pensais à quoi comme groupe de pensée? Parce que là, on voit les Russes, je veux bien imaginer, les fous furieux aussi. Mais est-ce qu'il y a d'autres groupes comme, je sais pas, les lobbies pétroliers aussi font des trucs comme ça, ont ces pratiques-là?
Alors, on a bien sûr des preuves d'industriels qui ont mené des campagnes. Enfin, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Même le Paris Saint-Germain a eu des campagnes contre certains de leurs joueurs pour mettre de la pression sur des contrats.
Okay. Ça, c'est... Par d'autres clubs?
Non,
c'est en interne.
C'est ça.
En interne. Ça a été documenté, ça.
Pourquoi je comprends rien?
L'ancien directeur de la communication, Monsieur Rive, qui était à la tête de ce petit travail, pour mettre la pression sur des joueurs du club.
Voilà, du club.
D'accord. D'accord.
Pendant des négociations de contrats, etc. Donc, la cyberguerre, c'est vraiment partout.
Ouais, c'est ouf.
Et il faut se dire, quand on parlait de génération de contenu bas de gamme, c'est que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les IA génératives, parfois, ne font pas ce travail de sélection. Et qu'en fait, en inondant la toile, les IA se nourrissent et nous rejettent ces informations qui ont été ingérées et qui nous les donnent comme des choses factuelles. Pourquoi? Parce que ça a été trouvé sur un site qui ressemble à des sites...
C'est-à-dire qu'elles remangent leur propre caca après.
Ouais, en quelque sorte. Ouais.
Tu sais, c'est une bonne... Ça va devenir un human centipede géant Internet.
Ok, on a l'image, Merci. Non, à force de parler de la Russie, on a aussi tendance à oublier d'autres acteurs malveillants. Je crois que tu travailles en ce moment sur la Corée du Nord.
Alors en ce moment, on travaille sur un dossier sur le recrutement, et, enfin le lien entre le processus de recrutement et la Corée du Nord. En fait, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que je travaille beaucoup dans la cyberguerre, donc tout ce qui est géopolitique, et on a du mal parfois à se rendre compte que ça peut nous concerner nous directement. Ouais. Et en fait, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que les Nord-Coréens ont trouvé une manière de financer leur régime à travers des petites bricoles sur Internet. Et l'idée, c'est d'intégrer des processus de recrutement. Alors, ça va dans les deux sens. On peut être recruteur et recruter ce qu'ils appellent un IT worker. Donc, c'est un Nord-Coréen qui va intégrer votre entreprise, qui va utiliser une IA, donc le face swap pendant l'entretien d'embauche. Oh, ça touche surtout principalement les entreprises du Web3, donc c'est les entreprises de crypto.
Pas étonné.
Donc qui utilisent beaucoup le télétravail et qui surtout payent beaucoup en stablecoins. Et du coup, ça permet à ces IT workers d'avoir une intraçabilité des revenus et de potentiellement pouvoir faire du blanchiment d'argent et de l'envoyer directement au régime nord-coréen. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Parfois, on peut être, nous, en tant que chercheurs d'emploi, touchés par les nord-coréens. Prenons par exemple, vous avez un super profil sur Malte. Vous avez 5 étoiles. Malte, c'est une,
plateforme de freelance.
Ah. Vous êtes développeur, vous êtes ingénieur en cybersécurité, vous avez des superbes notes, tout le monde vous veut. Vous recevez un message vous disant écoute, toi tu arriverais à te faire recruter, pas moi. Ce qu'on va faire, c'est tu vas me donner une partie du salaire et moi je vais faire le travail à ta place. Et en gros, ils intègrent comme ça des entreprises, donc ça peut poser des problèmes. Tout à l'heure, on parlait de backdoor, ça peut poser des problèmes par exemple si un matériel est envoyé à ces Nord-Coréens, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils peuvent insérer ce qu'on appelle une supply chain attack, c'est-à-dire quelque chose, un virus dans l'ordinateur qui sera déployé plus tard en cas de conflit, c'est un peu une boucle dont on parlait tout à l'heure, et c'est quelque chose qui peut toucher concrètement un Français, un Brésilien.
C'est incroyable cette arnaque,
c'est dingue.
C'est pas qu'une seule arnaque, c'est un,
c'est un ensemble,
ouais,
c'est
un réseau complet.
En tout cas, tout ton travail, cher Amine, est à retrouver sur le site de Numérama. Un tonnerre d'applaudissements pour Amine Baba, il sera